לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir chez les journaux. En technique avec nous, David Meyren. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 2 avril, 179 jours que la guerre contre le Hamas perdure, 179 jours que 134 otages sont toujours captifs à Gaza. Je vous rappelle que ce flash qui dure 5 minutes n'est disponible qu'à la radio sur le 101.3 FM et nous vous invitons à nous retrouver à partir de 21h20 sur le 101.3 FM et sur la page de Cannes en français avec votre rendez-vous Facebook Live pour le journal complet. L'armée israélienne reconnaît la responsabilité de l'attaque au cours de laquelle 7 volontaires d'une organisation humanitaire dans la bande de Gaza ont été tués et affirme qu'il s'agit d'un incident grave qui n'aurait pas dû se produire. L'armée israélienne va accélérer l'enquête sur l'incident et les conclusions devraient être publiées d'ici quelques jours. Le chef d'état-major Halevi se rendra ce soir au commandement sud pour recevoir les conclusions de la première enquête. Les circonstances de l'incident sont également examinées par le mécanisme d'enquête du chef d'état-major. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué le grave incident survenu hier soir dans la bande de Gaza, affirmant qu'il s'agissait d'une frappe involontaire de nos forces sur des personnes innocentes dans la région de la bande de Gaza. Netanyahou a ajouté que cela se produit en temps de guerre. Nous vérifierons l'événement jusqu'au bout. Nous sommes en contact avec les gouvernements et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus. Les informations préliminaires indiquent que des avions télécommandés de l'armée de l'air ont attaqué 3 véhicules de l'organisation humanitaire après avoir reçu de la nourriture d'un navire humanitaire de l'organisation arrivé au quai situé à l'ouest de la ville de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni a convoqué l'ambassadrice d'Israël, Tzipi Ottobli, pour un entretien dans le contexte de ce grave incident qui est survenu à Gaza, dans lequel 3 citoyens britanniques ont perdu la vie. Côté sud, l'équipe de combat de la formation Commando combat dans le quartier d'Alamal à Khan Younis, où elle attaque de manière ciblée les infrastructures terroristes. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Tsahal, qui a ajouté que lors des raids, les combattants ont trouvé de nombreuses armes et tué des dizaines de terroristes. Parmi les armes trouvées figuraient des missiles RPG, des explosifs, des fusils Kalachnikov et des munitions. En parallèle, les combattants de l'unité EGOS ont arrêté des dizaines de terroristes qui sortaient de l'hôpital Nasser. Les terroristes ont été transférés à la 504e division de renseignement et au Shin Bet pour une enquête plus approfondie. En réponse à la pétition selon laquelle l'État d'Israël viole son obligation de fournir une aide humanitaire à la population civile de Gaza, le représentant de l'État a répondu « Israël travaille pendant la guerre pour permettre l'introduction d'un grand nombre d'équipements humanitaires sur le territoire de la bande de Gaza, ceci tout en investissant de grands efforts et en étroite coopération avec les organisations humanitaires et la communauté internationale. De cette manière, l'État d'Israël remplit ses obligations conformément aux lois des conflits armés et au-delà. En outre, la réponse de l'État affirme que la demande d'intervention judiciaire des pétitionnaires n'est pas fondée et la pétition doit être rejetée. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui pour discuter de l'attaque en Syrie attribuée à Israël, au cours de laquelle le commandant de la force Quds en Syrie et au Liban, le haut gradé iranien Mohammad Reza Zahedi, a été éliminé. L'Iran au Conseil de sécurité a été détenu à la demande de la Russie. On estime que toute tentative en ce sens sera stoppée et que l'ONU publiera une résolution de condamnation ou une sorte d'annonce à ce sujet. Le Hezbollah a annoncé la mort d'un autre terroriste dans ses rangs, Hossein Reza Youssef Al-Qiyam, dans le sud du Liban. Selon le communiqué de l'organisation terroriste, il est mort alors que sa main était en route vers Jérusalem. Depuis le début de la guerre, le Hezbollah a annoncé 266 morts. Le contrôleur d'État Matanyahu Engelmann a ouvert son discours lors de la conférence sur le marché des capitaux pour l'épargne à long terme par un message adressé au ministre de la Défense Yoav Gallant et au chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, concernant la question de la garde des terroristes emprisonnés au Hamas. Emprisonné du Hamas, j'appelle désormais le ministre de la Défense et le chef d'état-major à ne pas exposer les femmes soldats à des risques inutiles lorsqu'elles montent la garde terroriste. Il a mentionné les données d'une enquête de 2022 selon laquelle environ 38% des femmes soldats dans les prisons de sécurité ont témoigné d'abus sexuels d'une sorte ou d'une autre. Ceci est la fin de votre Flash Info. Retrouvez-nous à 21h20 sur Facebook ou à la radio sur le 101.3 FM. Shalom de Jérusalem.
Buenas noches, informa Jonathan Meta para Can Radio Reca en español en esta actualización especial de las 9 de la noche. Las conversaciones sobre los acuerdos para retornar a los secuestrados en Gaza, en Israel se expresa optimismo sobre las posibilidades de recibir una respuesta positiva de Hamas en los próximos días. Un alto funcionario involucrado en las negociaciones dice que será muy difícil o imposible llegar a un acuerdo con Hamas si se rechaza la nueva oferta de Israel. Según él, es imposible ser más flexible, según informaron nuestros reporteros. Mientras tanto, fuentes palestinas, conocedoras de los detalles, le dijeron a este medio que hasta el mediodía de hoy, Hamas aún no ha recibido la propuesta israelí actualizada. Las fuentes estiman que la flexibilidad israelí está relacionada con el aumento del número de residentes que podrán regresar al norte de la Franja de Gaza. Sin embargo, según ellos, esto no será suficiente porque Hamas aún mantiene su exigencia de permitir el libre paso de familias enteras desde el sur de la Franja de Gaza hasta el norte. Nuestros reporteros señalaron que tras el incidente en el que murieron trabajadores humanitarios extranjeros y la creciente presión internacional sobre Israel, Hamas insiste en las condiciones que ha fijado: el fin de la guerra, la retirada del ejército de las ciudades, el libre retorno de los desplazados al norte y un plan para restaurar la Franja de Gaza. Las manifestaciones en Jerusalén por la liberación de los secuestrados y contra el gobierno continúan y nuestros reporteros informaron que comenzó una marcha con antorchas hasta la Plaza de París aquí en Jerusalén y desde allí hasta la residencia del presidente. Anteriormente, miles de personas participaron en la manifestación frente al edificio en la Knesset. La madre de Matan, quien está secuestrado en Gaza, de nombre Einav Zengauker, atacó duramente al primer ministro Netanyahu, lo llamó faraón, y dijo que no se está infligiendo un golpe primogénito. Las lesiones accidentales sufridas por trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza, en Israel, temen que el incidente aumente la presión política sobre Israel para que detenga los combates. Fuentes diplomáticas extranjeras dicen que este incidente ilustra el hecho de que Israel no tiene una estrategia real en la Franja de Gaza. Nuestros reporteros informaron que el incidente también plantea dudas sobre la continuación de los programas de ayuda humanitaria de los Emiratos Árabes Unidos y Chipre. Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos, de hecho, confirmó que su país suspenderá sus actividades de ayuda tras el incidente. El sistema de seguridad comenzó a activar interferencias de GPS en la región de Arabá, similar a la interferencia que se ha realizado en los últimos meses en el norte. Nuestros reporteros informaron en las noticias de la noche que la medida se tomó después de que un vehículo aéreo no tripulado explosivo, aparentemente lanzado desde Irak, explotara esta mañana en un espacio abierto a unos 300 metros del aeropuerto Ramón, mientras allí se estaban realizando ejercicios militares. El ejercicio fue interrumpido inmediatamente. Nuestro reportero señala que debido a las interrupciones es imposible operar los sistemas de navegación en Eilat y muchos de los que intentaron operarlos fueron identificados como supuestamente se encontraban en Egipto. Por otro lado, en el norte, hace aproximadamente una hora se escucharon alarmas en la Galilea Occidental, incluido en Nahariya. Nuestros corresponsales señalaron que es la primera vez en 5 meses que se escucha una alarma en la ciudad de Nahariya. Por ahora no se reportaron víctimas ni daños y se informó que aparentemente se lanzaron 10 cohetes mientras que algunos de ellos fueron interceptados. El Comité de Finanzas de la Knesset aprobó hoy el reglamento del impuesto a la propiedad, un fondo de compensación para las empresas del norte para los meses de enero y febrero de este año. Entre otras cosas, las empresas en los asentamientos de la línea del conflicto recibirán una compensación completa por estos meses según el tramo de compensación al que pertenecen. Hasta aquí informó Jonathan Mehta para acá en Radio Reca en español. Nosotros volveremos a encontrarnos con nuestra programación habitual el día de mañana a las 2 de la tarde, donde hablaremos con encargados de el mate del cuartel general de los secuestrados. Mientras tanto, Shalom desde Jerusalén.
Cartulano van ir a Diocan Reca, Gamisum Shalman, Sejan, Microfotman, Mariam Sikasuli, Ramem Shuido, Vitromisa, Samotsta, Cheramet, Azashi, Gautolistina, Belisham, Tobisa, Sabdolo, Operatis, Processebiscan, Vitaribis, Processi, Arastore, Catulis, Rolebishetigat, Diplomaturian, Prostoret, Humanitar, Vidahmaribis, Ramdenimet, Armamat, Canelida, Europa, Ισραήλι, როგორც იღებს თავის პასუხისმგებლობას, ასევე აკეთებს განცხადებას, რომ ამ გაუთვალისწინებელ ინციდენტში ეჭირა ევროპის, ამერიკისა და სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენელი. ამერიკის პრეზიდენტმა ბატონმა ბაიდენმა მნიშვნელოვანი კრიტიკა გამოთქვა არსებული პროცესის გამო, მიუსამძიმრა დაღუპულთა ოჯახებს და გაეკეთა განცხადება, რომ ისრაელი უკეთესი ჰუმანიტარული სამუშაო ჯგუფები უნდა იყოს დაკომპლექსებული. მაგრამ ბატონ ბაიდენ ომია, ომს თავისი ჩავარდნები და თავისი ამოვარდნები აქვს, ვინიც ისრა იქნება ხვალ. დღეს დახლობით ერთი თვე ნახევრის შემდეგ ნაარიაში, შლომში და ჩრდილოეთ კალიში დასახლებებში რაკეტის გასროლის ხმა ეცმოდა. ჯერჯერობით არ არის გავრცელებული ინფორმაცია, მოხდა თუ არა რაიმე დაზიანება ან დავარდნა ან ცეცხლი არ საერთოდ რაიმე. თელავივში ტერორისტი დააკავეს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის პასუხისმგებელი პირები ოფიციალურად აფრთხილებენ საზოგადოებას უკანასკნელი დღეების პროცესში თავდაცვის სისტემის გაძლიერებას. ეს პირად თავდაცვის სისტემაზეა საუბარი. მოსადის ხელმძღვანელი ბარნი არ გამორიცხავს, რომ მოლაპარაკების წარმატებული წარმართვა შესაძლებელია განხორციელდეს. სირიის ცენტრში ისრაელის წარმატებული სამხედრო ოპერაცია მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს გატაცებულთა განთავისუფლებაში. ირანის ელჩი სირიაში აკეთებს განცხადებას, რომ უახლოვეს დღეებში ჩვენ გავაკეთებთ მნიშვნელოვან შურისძიების ფაქტორს და ამ დროისათვის ერუშალაიმში კი გატაცებულები, ის ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკური ამბიციები გააჩნია და გატაცებულთა ოჯახების ძალიან ნაკლები კონტინგენტია. პარლამენტის წინ გაფრთხილებაზე არიან, ახლა მგონი პოლიტიკის დრო ნამდვილად არ არის, მაშინ როცა ქვეყანაში ყველაფერი ჯურდება, პიჩის პროგრამა, საბანკო სისტემა ცვლება, ყველაფერი უბედურდება, თქვენ კი რა გინდათ ქუჩაში? დაზვერვა და ზუსტი ბომბები დამასკოს გულში, დრამატული მკვლელობის უკან გუში, სირისა და ლიბანის ხუთი ძალების უპროსის წევრის მკვლელობა შთამბეჭდავ და შესაძლებლობებზე მიუთითებს. მკვლელობის მიზნის შესახებ ინფორმაციას შეაგროვებენ ზუსტ შეერაღებამდე. ადამიანების მკვლელობა მშვიდობიანი მოსახლეობის დაზიანების გარეშე მინიმალური ზიანი ადგილზეა, ასევე საიდან შეიძლებოდა მიმდინარეობდეს ირანული შურისძიება ისრაელის წინააღმდეგ. აუცილებელია აზერბაიჯანში ისრაელის საელჩოზე შურისძიება, აკეთებს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, შემდეგ საუბარი შეწყვეტილი იქნა და აღარავინ არაფერი აღარ გაგრძელა. ნუ უბრალოდ ჩვენამდე აღარ მოსულა. მუჰამედ რეზაზე ჰადიგუსი ბორშებაც მოკლეს, რომელიც ითვლებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სულეიმანის შემდეგ. შტამბეჭდავი შესაძლებლობების მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელმა არ მიიღო ოფიციალური პასუხის მგებლობა, საბოლოოდ არაღიარა სავარაუდოა, რომ ისრაელის საჰაერო ძალებს აქვს შესაძლებლობა განახორციელებია ასეთი ზუსტი ლიკვიდაცია მინიმალური ზიანი, თუმცა ამერიკა კი აკეთებს განცხადებას, რომ ჩვენ არაფერ შუაში ვართ. შუაში კი არა, თავშესაც ბატონებო, თქვენ გვიგზავნით ამიარაც. ჩვენ ვართ მრავალ მხრივ ომის არენაზე, შეტევებში, თავდაცვებში. ჩვენ მიღებთ იმის მტკიცებულებებს ყოველდღე, რომ მათ შორის ბოლო რამდენიმე დღის ჩათვლით მუშაობთ ყველგან, რათა თავიდანავე ცდილოთ ჩვენი მტრის გაძლიერება და გავანადგუროთ ყველა, ვინც ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს. აკეთებს განცხადებას თავდაცვის მინისტრი იოავ გალანტი. მთელი ახლო აღმოსავლეთში ფასი ისრაელის წინააღმდეგ მოქმედებს. მძიმე ფასი იქნება. ამასმა შეწყვეტა ფუნქციონირება. მე კი ამ ფორმით მინდა დავასრულო თქვენთან ეს მოკლე გამოშვება კვირას. ექვსი თვე სრულდება. ჩაწერეთ თქვენი გამოსვლა, თქვენი სინანული და ჩვენ ყველას ერთად გავწერთ. ხამენში დავით. შალომ იერუშალაი.
შალომ ადოშმომა და გორიმ ხტრამ და იერუშალაი ხოდერ სათი ნუ პონზა მოიონ და დიხეთონ 5 დაკიხა მალომოთ ხომი არასონი ვონ და ჯანგი კი ხოზერ და მომლაკეთმონ როიდო და ისოდას داخل دورات امروز 179 روزی جنگ شمشیرهای تیموری شمشیرهای تیموری نامیده شد در این جنگ که در 7 اکتبر قوی به خاطر تشکیلات حماس و سخنان تشکیلات حماس با شمشیرها به یار خود رانده تخمینا 1,000 آدم را نابود کردند امروز در خان یونس قوی به خاطر اسرائیل ده نفر تروریست رو نابود کردن و ده نفر دیگر به ترگو گذرانده شدند. بانک عمومی جهانی معلوم کرد که حالت فینانسی بی سکتری از بتر شده ایستاده از آن علاقه به 8.5 میلیارد دلار ضرر روی داد. امروز معلوم کردی که تف کارکنان تشکیلاتی یاردم رسانی هومانیتری WCQ نابود گردیدند. کار خود را این تشکیلات وقتی اینچه بس کرده گفته معلوم کردید. شتات متحده امریکا طلب دارد که اسرائیل به زودی این واقعه را تفتیش گذرانده معلومات های پورا رساند. چون این طلب همچون وزارتی خارجی بریتانیا از اسرائیل طلب دارد. 132 نفر به گروی گرفته شدن را در دستی تشکیلات حماس هستند. دیمانزراتی ها امروز هم در یروشلایم در این بابا شده ایستاده است. قوی بختری اسرائیل گرچنده که حرکت ها کرده ایستاده است برای آنها را بازگشت کردن، اما بیگان موافقت ها. از این سبب اوهیلایی که به گروی گرفته شدگیان به یروشلایم اومده از حکمرانی خاضر طلب کرده ایستادن که جای خود را به دیگر شخص دید که به گروی گرفتن چگان را آزاد کنن که در دوم نیم سال حالا یکان کس گشتن آمد. وکیلان اسرائیل امروز از قطر به بازگشت گردیدن. خلاصه به تشکیلاتی حماس فرسانده شد، اما آنها حالا جواب خود را ندادند. وزیر خارجه فرانسه یردن میسر امروز هم به سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تلفن کرده و طلب کردن که جنگ را در سکتر از بزودی بس کند و همچون آنها یاردمی خود را به بازگشت دادن به گروی گرفتشدیان میرساند. روزی گذشته از یک جنرال های ایران در سوریه حسن مهدی نبود کرده شد که نزیو همچون با 6 کماندی را بودن. آگاه به الچخانه اسرائیل در دنیا فرسانده شد. ایران وعده داد که حالا قصر خود را میگیرد و اسرائیل به کاری کردگیش حالا پشیمان میگردد، گفته ایران معلوم کرد. شتای متحده امریکا به ایران گفت که مایان یگان دخل به این خجوم رسانی دخل نداریم گفته به ایران معلومات ها رسند. امروز هم تریواگه ها در شمال مملکت همون روی داد، اما همین بار همچون در جای نوی که حالا دیگون بار در اونجا تریواگه کار نفرمایده نشود، امروز کار فرمایده شد. در یوده و شمران شبی گذشته قوی بختری اسرائیل 22 فلسطینی ها را دست گرفته تانستن از روی معلومات. همه دست گرفته شدگیان عربایی که به رفتار تروری دخل دارن آنها به ترگو گذرانده شدن. اسرائیل به خلاصه آمد که باید تل رادیوی الجزیر را به زودی محکم کردن ضرور هست. این تل رادیو می باشد در اسرائیل به زبان عربی که آنها هر خیل معلومات خوب به دیگر دولت ها می رساند و آن اسرائیل به ضرر می رساند. اوکراین به یک انباری حربی ایران در روسیه هجوم رساند. معلومات پورا حالا در این بابت به بیان نرسید. از همین روز تکلیف کنی جوانهای اولترا ارتودکس ها سر می شود. ذریع معلومات که دوی هفته گذشته گفته برانده بودیم، قوی بختری اسرائیل گفت که با مایان عسکرها کمی میکند. از همین سبب حکومت اسرائیل به خلاصه آمد که همچون جوان اولترا ارتودکس ها به خدمت ارمی گرفتن آنها را شرط هست. من خدا خد پگاه ساعتی دوزنیم به شما باید چه معلومات ها میرسانیم. شلوم نیو شلائم.
Il est 21h. Vous êtes sur CAN, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver au micro ce soir, Shirley Journaud, en technique avec nous, David Meren. Vous êtes sur CAN en français. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 2 avril, 179 jours que la guerre contre le Hamas perdure, 179 jours que 134 otages sont toujours captifs à Gaza. Concernant les pourparlers autour de l'accord pour la libération des otages, il a été rapporté que la délégation israélienne comprenant des représentants du Mossad, du Shin Bet et de Tzal reviendra du Caire dans l'après-midi. Le bureau du Premier ministre a annoncé que grâce à la médiation utile de l'Égypte, les différents partis ont formé une proposition actualisée de référence au Hamas. Israël attend des médiateurs qu'ils travaillent plus étroitement avec le Hamas pour faire avancer les négociations en faveur d'un accord, selon le message. Notre invitée du journal de ce soir sera Myriam Shermer, notre analyste politique qui nous parlera du tragique incident qui s'est déroulé à Gaza, dans lequel Tzal a pris la responsabilité concernant la mort de 7 travailleurs humanitaires. Elle nous parlera aussi de l'accord concernant les otages et de l'enrôlement des ultra-orthodoxes. Nous recevrons aussi un invité spécial, David Dijan, ami proche de la famille Veil, qui honorera avec nous la mémoire du sergent-colonel Sivan Veil, mort hier, succombant à ses blessures de guerre. Mais avant tout, voici les informations de ces dernières 24 heures.
Le Flash Info de CAN, la radio publique israélienne, présentée par Shirley Journaud.
L'armée israélienne reconnaît la responsabilité de l'attaque au cours de laquelle 7 volontaires d'une organisation humanitaire dans la bande de Gaza ont été tués et affirme qu'il s'agit d'un incident grave qui n'aurait pas dû se produire. L'armée israélienne va accélérer l'enquête sur l'incident et les conclusions devraient être publiées d'ici quelques jours. Le chef d'état-major Halevi se rendra ce soir au commandement sud pour recevoir les conclusions de la première enquête. Les circonstances de l'incident sont également examinées par le mécanisme d'enquête du chef d'état-major. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a évoqué le grave incident survenu hier soir dans la bande de Gaza, affirmant qu'il s'agissait d'une frappe volontaire de nos forces sur des personnes innocentes dans la région de la bande de Gaza. Netanyahu ajoutait que cela se produit en temps de guerre. Nous vérifierons l'événement jusqu'au bout. Nous sommes en contact avec le gouvernement et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus. Les informations préliminaires indiquent que des avions télécommandés de l'armée de l'air ont attaqué 3 véhicules de l'organisation humanitaire après avoir reçu de la nourriture d'un navire humanitaire de l'organisation arrivé au quai situé à l'ouest de la ville de Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lui aussi évoqué l'incident des travailleurs humanitaires et a déclaré qu'il a été demandé à Israël d'ouvrir une enquête sur cet incident. Il a ajouté que les organisations humanitaires, et WCK en particulier, accomplissent un travail extraordinaire dans la bande de Gaza. Ils doivent être protégés, a-t-il souligné. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni a convoqué l'ambassadrice d'Israël, Tzipi Ottobli, pour un entretien dans le contexte du grave incident de Gaza dans lequel 3 citoyens britanniques ont trouvé la mort. Myriam Shermer, notre analyste politique, va nous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de cet événement.
L'analyse politique de Myriam Shermer.
Bonsoir Myriam, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir. Myriam, alors Israël a reconnu la responsabilité de l'attaque au cours de laquelle 7 volontaires d'une organisation humanitaire dans la bande de Gaza ont été tués. Les 7 volontaires étaient étrangers, ce qui a provoqué la colère de nombreux pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Union européenne, qui se sont tous exprimés condamnant Israël et exigeant des enquêtes approfondies. Alors, comment évaluez-vous la réaction internationale à cet incident et dans quelle mesure pensez-vous que cet incident pourrait affecter les relations d'Israël avec les pays qui ont exprimé leur condamnation, donc affecter la suite de la guerre ?
Écoutez, je pense que, évidemment, c'est un incident tragique. Hein. Personne ne souhaite le décès de travailleurs humanitaires. Encore moins alors qu'Israël a tout à fait besoin que l'aide humanitaire soit acheminée correctement à la population palestinienne et que l'aide ne tombe pas dans les mains du Hamas. Donc effectivement, Israël a immédiatement exprimé ses regrets, même avant d'avoir fini son enquête. Et je pense que le gouvernement, a commencé par le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari, a très bien fait. Il a publié une annonce très contrite, ouais, etc. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est très important de reconnaître ses torts parce que sur les réseaux sociaux notamment, il y a une campagne qui accuse Israël de tout et n'importe quoi, à tort et à travers, souvent sans aucune preuve. Hein, on se sert de vagues tweets qui disent à peu près tout et n'importe quoi, etc. Donc quand il y a effectivement des décès civils, collatéraux, c'est très important d'en prendre la responsabilité. Pour le coup, je pense que chacun joue son rôle. Les puissances occidentales ont à cœur de montrer qu'elles dénoncent ce genre de choses. Mais soyons réalistes, hein, je pense que tout le monde comprend très bien que les morts accidentelles, ça arrive dans une guerre. Je pense à l'Ukraine, où des journalistes français ont trouvé la mort, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est un champ de bataille. C'est une erreur très regrettable. Mais bon, il faut quand même souligner que, vous savez, Charlie, que... parmi les soldats israéliens tombés, certains, un nombre non négligeable, le sont par accident de tirs israéliens. C'est malheureusement très récurrent sur un champ de bataille. Donc, si vous voulez, voilà, je pense que tout le monde comprend très bien qu'il faut être réaliste et que je pense pas pour le coup qu'on va vers un incident plus important que ça.
Vous pensez que ça aurait pas plus de conséquences?
Le fait de convoquer l'ambassadrice, c'est assez classique. Voilà, elle va leur expliquer le point de vue israélien et chacun est dans son rôle. Et voilà, les ambassadeurs qui sont convoqués, ça arrive quand même assez régulièrement.
Oui, bien sûr, mais on sait aussi qu'Israël est sous les radars en permanence. Quoi. Ça veut dire la moindre erreur, on a l'impression que les pays attendent justement le moindre faux pas d'Israël.
Oui, mais bien sûr.
Donc on aurait pu penser que l'événement prenne plus d'ampleur.
Non, mais si vous voulez, je pense que de toute façon, ceux qui veulent croire qu'Israël bombarde de façon indiscriminée, ils le croient depuis le 8 octobre, d'accord ? Donc même bien avant que l'opération militaire commence. Donc de toute façon, rien ne convaincra ces gens-là. Et parce que c'est des populations bruyantes, parce que certains ont même des positions importantes dans les élites, je pense à la presse, je pense aux institutions universitaires américaines, alors les politiciens de ces divers pays sont obligés de contenter ces gens-là en se montrant circonspects, etc. Alors que je pense que de facto, vous savez, il y a un analyste militaire qui s'appelle John Spencer, qui est enseignant à West Point, hein, donc l'Académie militaire américaine, donc pas n'importe qui, et qui dit très clairement qu'ils pensent qu'Israël a établi un standard de taux de victimes collatérales le plus bas au monde. D'accord ? Oui. On serait à environ un taux de 1, voire à 1,5 par cible militaire, en sachant que dans le reste du monde, la moyenne, c'est 8 à 9 civils tués pour un combattant. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est que donc, l'ONU admet dans ses propres statistiques qu'on a 80-90% de pertes humaines civiles dans des conflits comme lorsque les puissances occidentales frappent Mossoul en Irak, etc. Et c'est vraiment très intéressant de constater ce double discours. Les politiciens, ce sont des gens avec des incentives qui disent ce que leur électorat a envie d'entendre. Donc voilà, ils sont obligés de jouer le jeu. Je pense sincèrement pas que dans aucune capitale, dans aucune chancellerie, quelqu'un pense sérieusement qu'Israël bombarde de façon indiscriminée.
C'est important de le préciser que justement, Israël fait très attention à toutes ces victimes collatérales, malheureusement, qui arrivent en temps de guerre. Alors concernant, on passe à un autre sujet, concernant les pourparlers justement autour de l'accord de la libération des otages. Alors il a été rapporté que la délégation israélienne comprenant les représentants du Mossad, du Shin Bet et de Tzal sont revenus du Caire. Alors on a l'impression que cet accord c'est un peu comme un rêve inaccessible tant il traîne en longueur. Même après la proposition du compromis américain, le Hamas avait refusé l'accord. On ne sait plus qui blâmer. Alors, pensez-vous que le Hamas soit réellement intéressé par passer cet accord? Pensez-vous qu'Israël aussi, de son côté, ne fait pas assez d'efforts pour la libération des otages, comme le clament les manifestants, ou alors qu'au contraire, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'arriver à cet accord, à l'aboutissement d'un accord?
Je pense que c'est vraiment très difficile à établir. Je ne veux pas m'exprimer en tant qu'experte sécuritaire que je ne suis pas, mais je pense que la différence entre cet accord qui peut-être aura lieu, on croise tous les doigts. La différence avec le premier, c'est que le premier, déjà le Hamas avait très envie de se débarrasser des enfants, des jeunes femmes, des personnes âgées, etc., parce qu'il comprenait très bien que c'était difficilement tolérable pour l'opinion internationale quand même d'avoir une otage de 4 ans, même si bien sûr il a gardé le bébé, hein, Kir, oui. Mais enfin voilà.
Et Ariel aussi.
Voilà, oui, bien sûr, mais c'était dans son intérêt de toute façon. Et en plus, le Hamas, à ce moment-là, n'était pas convaincu qu'Israël allait reprendre les combats. Rappelez-vous, même les Israéliens eux-mêmes, en Israël aussi, il y avait ces craintes-là qu'on ne puisse pas reprendre les combats.
Oui.
Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a repris de plus belle, d'accord? Et que, selon les estimations, le Hamas est surpris par l'ampleur des représailles israéliennes depuis le début de cette campagne. Effectivement, elles sont inédites par rapport à toutes les autres opérations offensives qu'il y a eu dans la bande de Gaza depuis que le Hamas est monté au pouvoir. Donc à ce niveau-là, effectivement, le Hamas a beaucoup plus de choses à perdre pour un second tour. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, les conditions sont beaucoup plus difficiles, les négociations sont beaucoup plus délicates, en sachant que... le Hamas a abandonné une partie de ses revendications, ce qui signifie quand même une victoire en filigrane pour Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, rappelez-vous, hein, le 7 octobre, c'était notamment justifié de leur côté par l'idée qu'ils allaient faire libérer tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.
Mmh.
Ils ont complètement abandonné cette revendication.
Et Israël aussi a abandonné aussi quelques-unes de ses exigences. Enfin,
alors justement, toute la question est... d'une part, est-ce qu'Israël accepte de libérer des terroristes avec du sang sur les mains, tout en sachant que le deal Shalit de 2011 a été catastrophique pour la sécurité ultérieure d'Israël, donc c'est une grande crainte en Israël. Et d'autre part, l'arrêt des combats plus ou moins, et surtout, oui ou non, le retrait de la zone nord de la bande de Gaza, qui dans n'importe quel plan futur... présenté aujourd'hui par l'appareil sécuritaire israélien, il y aura une présence de Tzal au moins dans la bande nord pour faire tampon avec les territoires israéliens et pour pouvoir contrôler les afflux de population. Donc, si vous voulez, on a bien vu d'ailleurs avec cette opération à l'hôpital Shifa qui a duré plus de 2 semaines maintenant, comment Israël s'est retiré de l'hôpital qui avait été attaqué une première fois en novembre et que finalement, les terroristes à la fois du Hamas et du djihad islamique sont allègrement retournés. D'accord ? Donc pour Israël, c'est très compliqué de se retirer. Donc toute la question est effectivement quelles sont sur quoi Israël peut céder. tout en sachant qu'effectivement, la pression augmente à l'intérieur d'Israël, c'est tout à fait normal. D'une part, symboliquement, on arrive à la fête de Pessah, et je pense que pour beaucoup d'Israéliens, ça va être très compliqué de fêter la fête la plus importante de l'année, et puis surtout la fête de la libération, la sortie de l'esclavage.
Oui, exactement.
Dans les otages, c'est extrêmement symbolique et c'est très, très difficile. Et au-delà de ça, les témoignages qui se multiplient, les ex-otages qui très courageusement disent tout haut ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'on se doutait bien qu'il y avait des agressions sexuelles, mais il y a une différence entre s'en douter et entre l'entendre et ou le lire noir sur blanc, qui est désormais le cas. Et par exemple, aujourd'hui, il y a une séquence très difficile et très émotionnelle à la Knesset où plusieurs ex-otages accompagnés de mères d'otages ont vraiment témoigné de ce qu'elles avaient vécu. Et je pense que peu de députés présents sont restés avec les yeux secs et dans la caisse, parce que tout le monde comprend très bien qu'il s'agit d'un calvaire. Donc effectivement, on est dans une situation très compliquée.
D'autant plus que ça fait bientôt, enfin dimanche, ça va faire 6 mois quand même que...
6 mois, oui, oui.
C'est la moitié d'une année, c'est incroyable.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Gilad Shalit, qui est donc un ex-otage franco-israélien, pour le coup, même s'il ne parle pas très bien français, mais qui a la nationalité française, connu du monde entier et connu d'Israël certainement, on aurait pu penser qu'il s'exprimerait peut-être, parce que lui, il a passé 5 ans en otage, en captivité.
Oui.
Et ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue et son expertise quelque part. Il ne le sait pas, c'est tout à fait compréhensible. Oui. Il a le droit de mener sa vie, de continuer à mener sa vie de façon privée. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des otages qui ont été libérés beaucoup plus longtemps. Mais d'un autre côté, il ne s'agissait pas de femmes. À ma connaissance, c'est la première fois que des femmes sont enlevées à Gaza, notamment des soldates, mais pas que, des jeunes femmes qui étaient à la fête de Nova. Donc, avec tout ce que ça représente en termes d'agression sexuelle, et puis, bien entendu, la quantité, et puis certainement aussi la cruauté et le sadisme du Hamas qui a beaucoup monté, qui a monté d'un cran à l'époque, il y a 10 ans, quand Gilad Shalit est libéré. Certes, il est pâle, mais il est pâle et il est mal nourri quand il sort de son calvaire, mais il a passé plus ou moins 5 ans à regarder la télé, enfin voilà, si vous voulez,
il n'y avait pas cet enjeu de guerre et de pression.
C'était différent. Donc bon, effectivement, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Le Hamas sait très bien que pour la société israélienne, c'est inadmissible et c'est insupportable. Donc je pense qu'il n'y a pas à se priver d'en jouer jusqu'au bout. Ce qui peut être intéressant à souligner, tout de même, c'est que en l'occurrence, le monde devrait s'indigner davantage. Là aussi, les organisations de femmes, je pense à la première dame des États-Unis, je pense à la première dame de France. Enfin voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, cette question de est-ce que oui ou non des jeunes femmes sont censées continuer à être violées tous les jours, parce qu'il s'agit de ça, hein, il faut dire les choses comme elles sont, avec peut-être des grossesses non désirées à la clé, enfin voilà, c'est indescriptible.
C'est vrai que le silence est troublant. Le silence de la part des organisations féministes.
Voilà, ça devrait pas être un enjeu de guerre, ça devrait tout simplement être normal qu'on les libère pour un avis. Mais voilà.
Merci beaucoup Myriam. Alors avec les quelques minutes qui nous restent, on va passer sur le sujet de l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans le Sahel. Est-ce que vous pouvez commencer juste par nous faire un peu d'ordre, encore une fois, assez rapidement, et nous donner votre avis sur la question en vue d'une prévision de l'ouverture d'un nouveau front nord?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est une collision assez exceptionnelle, comme que en Israël, il peut nous arriver, à la fois d'un calendrier législatif et judiciaire, en fait, où finalement tous les accords et les lois qui avaient été prévues jusqu'à présent pour maintenir la dispense de l'enrôlement des ultra-orthodoxes, eh bien, sont arrivés à terme. D'accord, il y a péremption, si vous voulez, d'un point de vue législatif. Et puis, bien entendu, avec les besoins de la guerre qui augmentent énormément, avec des réservistes israéliens aujourd'hui qui, après avoir fait parfois 4 mois au front, sont de nouveau rappelés. Et tout le monde se doute que ça ne va pas s'arrêter là et qu'on sait très bien que ça va au moins durer encore 1 an, voire 2. Donc, comme vous dites, avec l'ouverture possible d'un front nord. Et on comprend très bien que l'effort de guerre a besoin d'être soutenu de façon massive, très différemment de ce qui était envisagé jusqu'au 7 octobre. Ça, c'est le contexte. Ensuite, effectivement, donc, il se peut que la guerre précipite les choses, hein, et que finalement, les ultra-orthodoxes soient vraiment acculés avec des sanctions sur les yeshivot, les centres d'études talmudiques, etc. Alors, Netanyahou a promis à ses partenaires de coalition une loi qui serait passée dans 1 mois, donc à la session parlementaire d'été, hein, après la fête de Pessah, qui obtiendrait l'accord de la conseillère juridique du gouvernement et qui serait voté à majorité. Il y a beaucoup de députés aujourd'hui au Likoud, notamment, qui sont très mal à l'aise avec cette situation. Donc, reste à savoir, effectivement, s'il pourra obtenir gain de cause, en sachant que Benjamin Netanyahu est quand même réputé pour ses talents politiques. Donc, en général, quand il fait une promesse de ce genre, il arrive à la tenir, mais un mois en Israël, a fortiori en temps de guerre, c'est beaucoup.
C'est vrai. Merci beaucoup, Myriam, pour tous vos éclaircissements. C'était très, très intéressant. On espère vous retrouver très, très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
Avec plaisir. Bonsoir.
Au revoir, Myriam. Alors, nous nous apprêtons à honorer la mémoire du sergent-colonel Sivan Veil, mort hier en héros, succombant à ses blessures de guerre. Sivan, que sa mémoire soit bénie, originaire de Re'anana, servait dans l'unité d'Egoz et n'était alors âgé que de 20 ans. David Dijan, un ami proche de la famille Veil, nous fait l'honneur de nous parler de Sivan sur Canon Français. Bonsoir David Dijan.
Bonsoir.
Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de Sivan ?
De Sivan, je pourrais en parler des heures, parce que Sivan, je l'ai connu dès la naissance. Et Sivan, c'est une histoire de sionisme, c'est une histoire d'alias, c'est une histoire de... Ses parents ont fait l'alliance en 1998, jeune couple, et se sont mariés en Israël et ont eu quatre beaux enfants. Et Sivan était le deuxième de la fratrie. Et il a grandi en fait en parallèle avec mon fils. Il avait exactement le même âge et donc depuis l'âge de on les a vus grandir ensemble. Et donc voilà, Sivan était un garçon que tout le monde décrit comme aujourd'hui je sors des Shiva, on était jusqu'à maintenant au Shiva et tout le monde raconte la même chose. C'est quelqu'un qui était un enfant qui semblait comme ça un peu timide, mais en fait dès qu'il était dans son milieu avec ses copains, c'était un blagueur. Un de ses copains disait hier pendant l'enterrement que c'était sa plus mauvaise blague, c'était hier le 1er avril de se faire enterrer le 1er avril. Et c'est un peu comme ça le destin qui nous a souri. Mais donc voilà. Donc voilà, c'est un enfant qui a grandi à Re'anana et à l'école Talli, et qui aimait le sport, jouait beaucoup au basket, au foot. Et puis en grandissant, c'est cette génération-là a toujours cherché l'excellence dans tout ce qu'il faisait. Et ils se sont tous poussés les uns les autres. C'est une bande de copains qui ont grandi aussi aux AID, au groupe local de Ron Arad, depuis l'âge de 8 ans, qui chaque année partait faire des camps en France pour représenter Israël. C'était leur vraie fierté aussi d'être déjà sionistes. Et donc chaque année, ils allaient en France. Donc voilà, ils étaient un groupe de copains. Et ils allaient en classe ensemble, ils allaient aux AID ensemble, ils partaient en vacances ensemble. Nos familles étaient, on était tous proches, nos familles étaient ensemble, parce qu'on n'avait pas de famille ici, donc on a tous créé comme ça, on s'est recréé une famille. Donc on passait les Shabbats ensemble, on passait les fêtes ensemble. Et donc voilà, nos enfants ont vraiment tous grandi ensemble et avec les mêmes valeurs de sionisme et d'avoir envie de donner au pays. Et donc Sivan, quand il a commencé à réfléchir à l'armée, pour lui c'était une évidence qu'il fallait choisir le top du top. Et donc voilà, pour lui il s'est préparé, il s'est entraîné pendant un an et demi pour être pris dans les unités d'élite et il a été pris à Egoz.
Alors vous pouvez pas me voir, mais je souris doucement de tout ce que vous racontez, tant vos paroles me touchent sur Sivan. C'est extrêmement émouvant. Alors vous avez commencé à nous parler de son service. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Et ben en fait, à partir du moment où il a été pris dans cette unité, c'est comme si c'était une fleur qui s'est épanouie. Il s'est ouvert. On a vu un autre Sivan prendre confiance en lui. Je parlais au début d'un enfant comme ça, un peu timide, un peu réservé. Puis là, vraiment, on le voyait heureux. Il avait peur de rien. Il avait vraiment épanoui à tous les niveaux, beaucoup plus parlant, beaucoup plus racontant, beaucoup plus partageant. Et pour ses copains, c'était quand il nous raconte Sivan, parce que c'est vrai que la force des Sivan, c'est aussi de partager et d'entendre des choses que voilà, les enfants nous racontent peut-être pas toujours nous les parents, mais voilà, ils nous ont dit voilà, c'était un autre Sivan. À partir du moment où il est rentré à l'armée, c'était un autre Sivan et que c'était voilà, qui était un fêtard, qui était devenu un fêtard, qui profitait profiter de chaque moment de la vie et qui aimait rigoler, qui aimait boire, qui aimait faire la fête quand il revenait. Puis quand il fallait être avec à l'armée, il était ses copains d'armée nous racontent que il était le premier à rendre service, le premier. On revoyait des photos et des films tout à l'heure pendant la Shiva et on le voit dans sa Massa Kunta. Il est le premier, il tient la Anka et il pousse son équipe. Et voilà. Et puis Sivan, c'est ce qui est incroyable, c'est que il a passé une première période de 60 jours presque à Gaza sans rentrer. Et puis un jour, un coup de fil au milieu de la nuit pour prévenir qu'il sort d'urgence de Gaza parce qu'il a une appendicite qui s'est aggravée dans les conditions sanitaires de Khan Younes, et donc il est ramené d'urgence à l'hôpital pour le soigner de l'appendicite, et il passe, et donc il va passer un mois et demi à la maison. Ce que tout le monde appelle, ses parents, ses amis, sa famille, le cadeau du ciel d'avoir ce mois et demi avec lui. Il a eu, c'est complètement incroyable. Il a rencontré son premier amour, enfin je sais pas si son premier, en tout cas, il a rencontré Yali, qui était sa petite amie ce dernier mois et demi. Une très belle histoire d'amour, et Yali a été tout accepté par la famille, enfin voilà, et par les copains. Et puis dès qu'il a commencé à se sentir mieux, il l'a dit à tout le monde, j'y retourne, mes copains, ils ont besoin de moi, et même si je pourrais profiter de dire que je pourrais avoir des guillemets libres, ou encore, non, mes copains, ils ont besoin de moi, et donc je vais y retourner. Et donc il est retourné, et il est retourné il y a une quinzaine de jours à Gaza, autour de Gaza, en attendant la mission, et puis il est rentré pour l'opération autour de l'hôpital à Laman, et c'est là que le tragique est arrivé.
Alors déjà, avec tout ce que vous venez de nous dire, vous avez décrit un véritable héros, et ça fait il y a une part de consolation à se dire qu'il était tant épanoui dans son unité, quand il est rentré à l'armée, qu'il a eu aussi, c'est incroyable, ce mois et demi finalement où il était à la maison et qu'il a pu rencontrer, il a pu vivre une histoire d'amour, qu'il a pu être encore avec ses parents. J'ai des frissons partout.
Et ben, je vais continuer à vous en donner en ajoutant aussi une dernière chose qui est aussi un dernier peut-être cadeau de Dieu, en tout cas un cadeau de Sivan, c'est que donc il a été blessé très très grièvement au cerveau mais il a quand même continué on a encore été au Sassour Chevet pendant 48 heures depuis vendredi jusqu'à dimanche, ce qui a permis à sa maman qui était partie pour le travail de rentrer, de pouvoir se séparer, et puis à nous tous de passer encore des moments avec lui, de lui dire ce qu'on avait à lui dire, de le remercier pour ce qu'il était, et puis surtout, parce que maintenant on peut le dire, il a permis de sauver la vie de 5 personnes, puisque ses organes ont été redonné et que donc il a été annoncé aujourd'hui que c'était 5 personnes qui avaient vu la vie se prolonger grâce aux organes de Sivan, et j'envie celui qui a eu la chance d'avoir le cœur de Sivan, entre autres.
Même dans sa mort, il a réussi à continuer son combat, sa mission, et à sauver des gens. C'est tout simplement, voilà. Quoi, c'est un sacrifice aussi de la part des parents. Enfin, c'est magnifique aussi d'avoir accepté.
C'était pour la famille, je crois, une évidence quand il leur a été dit qu'ils avaient cette possibilité, que les organes n'étaient pas touchés, qu'ils pouvaient sauver des vies. Je crois que pour la famille, c'était une évidence, que c'est ce qu'aurait voulu Sivan, et que donc ils ont accepté sans aucune difficulté. Voilà, je pense que voilà, c'est le Sivan de toute façon qu'on a tous en tête, c'est le Sivan qu'on aimait, c'est le Sivan qu'on va continuer à aimer, c'est le Sivan il est d'usage de dire, quand on parle des jeunes qui tombent, que ce sont des héros d'Israël. Alors sans doute qu'il est un héros d'Israël, sans doute il est un héros du peuple juif, mais d'abord il est le héros de ses parents et de sa famille. Ils peuvent en être très très fiers, mais il est aussi notre héros à nous, de notre bande de copains. Et pour nous, vraiment, c'était une chance de pouvoir le côtoyer. Et je suis je pense à tous ses copains qui ont eu la chance de grandir avec lui. Et je sais que pour eux, ça sera une perte indicible. Et c'est vrai que ça nous pose des questions à nos parents, de se dire comment on peut enterrer un enfant, comment on peut accompagner nos enfants et de voir nos enfants accompagner jusqu'à leur dernière demeure leurs amis. Enfin voilà, ce sont des vraies questions. Et des fois qu'on se dit que le monde tourne un peu à l'envers, qu'il y a une vraie injustice, et c'est des vraies questions par rapport à nos valeurs qu'on leur enseigne. On a envie de leur donner la vie, on leur donne la vie, on a envie qu'ils aient une belle vie, et puis voilà, une réalité compliquée qui fait que...
C'est cette réalité que le peuple d'Israël vit depuis le 7 octobre, et donc depuis 6 mois maintenant, est tout simplement insoutenable. C'est... On entend tant d'histoires, comme vous avez dit, tant d'histoires de bravoure, d'héroïsme, et à chaque fois le cœur saigne et souffre toujours de la même manière.
Mais c'est clair, et c'est je pense la chance d'Israël d'avoir une génération en or telle qu'elle est, mais à nous les grands, à nous de pouvoir être dignes d'eux, et puis d'essayer de faire en sorte qu'on leur offre un avenir meilleur, et je ne sais pas, et puis surtout moi je ne suis rien, je ne suis aujourd'hui qu'un ami de la famille, j'ai envie que ça soit aussi un appel à nos dirigeants d'être pouvoir être dignes de cette génération, et de pouvoir faire tout ce qui est en leur mesure pour pouvoir voilà, on n'a pas à sacrifier des vies, on n'a pas à sacrifier ces générations. Ils ont un vrai parcours, une vraie vie à construire, et sans doute un avenir meilleur pour Israël.
Alors David, pour le mot de la fin, comment souhaiteriez-vous qu'on se souvienne de Sivan?
Bah, nous on va essayer de s'en souvenir des bons moments qu'on a repassés avec lui. On va sans doute avec la famille réfléchir à faire plein de choses. Comme disait son frère aîné Nathan, que c'est la mission de sa vie de rappeler le souvenir de son frère. Mais je pense que c'est aussi une mission que l'on aura tous, de se rappeler que il aimait rire, il aimait la vie, et qu'il faut continuer à sacrifier la vie. Faire en sorte qu'il soit pas mort pour rien, et qu'ensemble, tous ensemble, malgré nos divisions, malgré nos avis différents, on arrive à pouvoir créer les divergences dans la société, on arrive à créer un Israël meilleur dans lequel nos jeunes ont un espoir, une vie à construire et de belles choses à créer, avec de belles valeurs et des belles midotes, comme l'en avait Sivan.
David, merci beaucoup. Alors, c'était sans doute l'une des interviews les plus belles et les plus émouvantes qu'on a eues sur la chaîne. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous parler de Sivan, et qu'on ait pu le connaître à travers ses histoires. On a une forte pensée pour la famille Veil, pour les amis proches, et on espère entendre des bonnes nouvelles. Merci encore.
Merci à vous.
Bonne soirée. Côté sud, l'équipe de combat de la formation commando combat dans le quartier d'Alam al-Khan Younis, où elle attaque de manière ciblée les infrastructures terroristes. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de Tsahal, qui a ajouté que lors des raids, les combattants ont trouvé de nombreuses armes et tué des dizaines de terroristes. Parmi les armes trouvées figuraient des missiles RPG, des explosifs, des fusils Kalachnikov et des munitions. En parallèle, les combattants de l'unité EGOS ont arrêté des dizaines de terroristes qui sortaient de l'hôpital Nasser. Les terroristes ont été transférés à la 504e division de renseignement et au Shin Bet pour une enquête plus approfondie. En réponse à la pétition selon laquelle l'État d'Israël viole son obligation de fournir une aide humanitaire à la population civile de Gaza, le représentant de l'État a répondu qu'Israël travaille pendant la guerre pour permettre l'introduction d'un grand nombre d'équipements humanitaires sur les territoires de la bande de Gaza, ceci tout en investissant de grands efforts et en étroite coopération avec les organisations humanitaires et la communauté internationale. De cette manière, l'État d'Israël remplit ses obligations conformément aux lois des conflits armés et au-delà. En outre, la réponse de l'État affirme que la demande d'intervention judiciaire des pétitionnaires n'est pas fondée et la pétition doit être rejetée. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui pour discuter de l'attaque en Syrie attribuée à Israël, au cours de laquelle le commandant de la force kurde en Syrie et au Liban, le haut gradé iranien Mohammad Reza Zaidi, a été éliminé. On estime que toute tentative en ce sens sera stoppée et que l'ONU publiera une résolution de condamnation ou une sorte d'annonce à ce sujet. Côté nord, le Hezbollah a annoncé la mort d'un autre terroriste s'érant, Hussein Reza Youssef Al-Khiam dans le sud du Liban. Selon le communiqué de l'organisation terroriste, il est mort alors que sa main était en route vers Jérusalem. Depuis le début de la guerre, le Hezbollah a annoncé 266 morts. Le contrôleur d'État, Matanyahu Engelmann, a ouvert son discours lors de la conférence sur le marché des capitaux pour l'épargne à long terme par un message adressé au ministre de la Défense Yoav Gallant et au chef d'État-major, le général de division Herzi Halevi, concernant la question de la garde des terroristes emprisonnés du Hamas. J'appelle désormais le ministre de la Défense et le chef d'État-major à ne pas exposer les femmes soldats à des risques inutiles lorsqu'elles montent la garde des terroristes. Il a mentionné les données d'une enquête de 2022 selon laquelle environ 38% des femmes soldats dans les prisons de sécurité ont témoigné d'abus sexuels d'une sorte ou d'une autre. Le porte-parole de Tzahal a répondu au contrôleur d'État que le chiffre selon lequel cette statistique fait référence à des plaintes a répondu, excusez-moi, le porte-parole de Tzahal a répondu au contrôleur d'État que cette statistique faisait référence à des plaintes antérieures de soldats ayant servi et que ce modèle ne se faisait plus. À l'occasion du sixième mois de la guerre, le ministre de l'Éducation, Kish, a annoncé qu'à partir du mois prochain, les élèves célébreront le mois de la résurrection et de l'héroïsme à la mémoire des soldats tombés, des victimes du 7 octobre et de la guerre des épées de fer. Dans le cadre du programme, les valeurs de commémoration et d'héroïsme, de garantie mutuelle, d'appartenance à la terre et au pays, et les rencontres entre toutes les composantes de la société israélienne seront mises en valeur. L'État a dépensé des dizaines de millions de shekels pour protéger les dortoirs privés des premiers ministres en poste ces dernières années. Tout cela alors que la rénovation de la résidence officielle de la rue Balfour prend du retard et que le projet de construction d'une nouvelle résidence n'avance pas. C'est ce que révèle le rapport du contrôleur de l'État. Dans le rapport social, le commissaire aux comptes a décrit les conséquences de l'échec des tentatives de construction d'un bâtiment pour le bureau du Premier ministre et la résidence du Premier ministre depuis 2014. Selon le commissaire aux comptes, il faudra 6 à 8 ans pour construire le dernier bâtiment. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, partira la semaine prochaine pour une visite politique à Washington. Il rencontrera de hauts responsables de l'administration et de hauts membres du Congrès. Dans le communiqué qu'il a publié, il est indiqué que les réunions se concentreront sur le renforcement des relations stratégiques avec les États-Unis et sur les efforts visant à ramener les otages et sur la question du nord d'Israël. En ce qui concerne la météo, demain et jeudi, les températures baisseront, mais elles resteront néanmoins élevées pour la saison. Les températures maximales de demain, 27 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et Haïfa, 31 degrés à Beersheba et jusqu'à 36 degrés à Eilat demain midi. Merci de nous avoir suivis pour ce journal. Retrouvez-nous dès demain pour un nouveau journal du soir et pour votre flash info à 15h sur Facebook et sur le 101.3 FM. Shalom de Jérusalem.
עובר מבול לכל אחד יש איזה הבל שהוא מקנה בו עד מוות בכל אחת מגדל של מרד ובלבול כל אדם הולך לו מבית אבא עמוק בפנים יש סדום קטנה שהוא רק רוצה למחוא כבר ויש מלאכים שימלטו אותו וגם אני חולם כמו יוסף כן גם אותי זרקו לבור גלגל חוזר בתוך תחפושת וכמו דוד more
שרק יבוא כמו כל אחד גם היא מוכה בסתר כמו רחל כמו משה